milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Deuxième émission à Marrakech au premier forum des femmes africaines, le Women in Africa, qui rassemble beaucoup d'entrepreneuses, influenceuses venues de plus de 30 pays. Alors, quel changement pour les carrières des femmes? Quelles sont leurs nouvelles stratégies pour gagner le pouvoir? On va en discuter avec nos invités. Nadia Mensah Akoni, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes auteur du classement annuel des 100 femmes les plus influentes du continent pour le magazine Forbes Afrique. Le dernier classement est sorti cet été, vous nous en parlerez. Vous nous parlerez bien sûr aussi de ce nouveau visage du continent et comment ce classement dessine la façon dont les femmes tirent leur épingle du jeu dans l'économie, mais pas seulement sur le continent africain. Et vous êtes aussi cofondatrice du cabinet Acosphère, cabinet de conseil et de formation. Vous êtes basée à Londres. Bimpin Konchou, bonjour.
Bonjour, bonjour Manuel.
Vous êtes une avocate nigériane, oui. Chef d'entreprise, basée également à Londres.
Oui.
Et vous conseillez beaucoup de femmes africaines pour leur business comme pour leur fortune privée et familiale.
Oui, exactement.
Et vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus.
Oui.
Aïda Diarra, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes vice-présidente Afrique de Western Union. Nadia Mensah Akoni, Bimpin Konchou, Aïda Diarra. Déjà, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi caser dans vos agendas surchargés un stop d'un ou deux jours dans un forum de femmes africaines. Vous vous croisez déjà les unes et les autres dans les salons business class des aéroports.
Ça ne suffit pas, Emmanuel. Les forums de femmes sont des lieux de partage, des lieux d'enseignement aussi, mais surtout beaucoup de partage. En anglais, il y a ce terme que moi j'aime beaucoup, le sisterhood. Et là, on prend le temps de se parler, de se connaître, de se rencontrer, d'échanger, un temps qu'on n'a pas au quotidien. Dans le business, on est pressé, on a des choses à faire, on a des rendez-vous, on a des clients à voir. Ce n'est pas la même chose.
Une forme de fraternité économique au féminin, donc. Hein.
Exactement.
On n'a pas vraiment de mots, nous, en langue française.
Non, parce que c'est une forme de fraternité qui va très loin, où on peut échanger beaucoup, on peut devenir très proche en très peu de temps.
Aïda Diarra.
Je rejoins un peu les propos de Nadia parce qu'on s'est rendu compte que, au regard de différentes recherches qui ont été faites, y compris au sein de Western Union, que les femmes ne prenaient pas le temps de faire du networking dans le contexte de leur activité quotidienne. Et donc, un forum comme celui-là est toujours le bienvenu pour partager les expériences, tisser un réseau de relations et aussi tirer des enseignements et apprendre les unes des autres.
Pourquoi elles ne prennent pas le temps de faire du networking, du réseau donc?
Parce qu'elles sont plus, elles, orientées vers l'exécution, délivrer les résultats. Et,
délivrer les résultats,
voilà.
C'est-à-dire gagner des parts de marché par exemple?
Non, être délivrée au niveau de la production, de ce qui est attendu d'elles. Tandis qu'on remarque que d'une manière générale, les hommes prennent plus le temps de se rencontrer en dehors du travail et de tisser ces réseaux de relations.
Et pour vous, Bimpin Konchou, avocate nigériane?
C'est exactement ça. Le networking est très important. On est là, on partage aussi en agir, où les femmes peuvent partager les idées. On discute ensemble, on rit. On voit qu'en fait, même si on n'est pas dans le même pays, même dans le même secteur, il y a toujours les mêmes problèmes, peut-être, qu'on partage. Il y a même des solutions qui ne sont pas évidentes. Mais quand tu es à côté d'un cerf de commerce, en commerce, tu peux même trouver des idées qui ne sont pas évidentes pour toi.
Mais alors, quand on se pose la question comment gravir les échelons en tant que femme, comment s'entraider, puisque c'est pour ça aussi que vous êtes là, à vous retrouver entre vous, il y a beaucoup d'hommes qui disent entre eux que c'est encore un nouveau concept marketing, que soit vous êtes à côté des vrais sujets, soit au pire même manipulé.
Je ne suis pas d'accord. Mais alors pas du tout. Je crois qu'au contraire, la particularité des femmes, c'est que quand elles se retrouvent, elles parlent des vrais sujets, elles s'ouvrent, elles n'ont pas peur des émotions, elles n'ont pas peur même des larmes ou des douleurs. On partage et on partage beaucoup plus vite que les hommes les vrais sujets parce que dans le fond, on a les mêmes vécus, les mêmes réalités qui sont notamment pour nous qui travaillons beaucoup, il faut le dire, que nous avons à gérer à la fois une famille, un business, il faut réussir sur tous les fronts. Et donc, on a des challenges qu'on partage hein, beaucoup.
Aïda Diarra ?
J'ai du mal à m'associer à cette idée du fait que parce que les femmes se rencontrent, c'est...
Mais vous l'avez entendu, ça, chez les hommes.
Je pense qu'ils ne comprennent pas forcément le besoin parce qu'ils ne sont pas forcément au fait des difficultés que les femmes peuvent rencontrer. Mais par contre, associer ça à une idée marketing, je pense que les bénéfices de telles actions et de telles rencontres vont bien au-delà de...
Est-ce que les femmes dirigeantes, entrepreneurs, sont devenues un produit bankable comme un autre ?
Vous savez, moi, je pense qu'il y a des recherches qui ont été faites et qui donnent une indication très claire sur le rôle que les femmes jouent et de l'impact positif que les femmes peuvent avoir non seulement au sein des entreprises, mais au sein des pays. Donc, il y a une étude qui a été faite qui montre que les entreprises qui font partie de 500, qui sont cotées en bourse, réalisent, et celles qui ont donc le plus de femmes à leur board, réalisent quelque chose, voilà, leur direction, réalisent 20% de profit supplémentaires que le reste des entreprises. Et ça, pour moi, c'est un bon indicateur qui dit que la diversité du genre est importante, la diversité tout court est importante au sein de Corporate America et Corporate Africa.
Surtout si elle mène aux bénéfices.
Absolument.
Bimpe.
Oui, je suis d'accord avec Aïda. En fait, depuis des années, c'est les femmes qui gèrent les maisons. Et si on peut trouver le même énergie, les mêmes dynamismes que les femmes appliquent à gérer la maison dans une grande société avec le même commitment, exactement
la même
discipline. À mon avis, de toutes les sociétés qui comprennent bien que les femmes peuvent avoir un très très rôle important, les sociétés comme ça vont réussir.
Absolument. Alors justement, on va en parler de ce rayonnement des femmes. Nadia Mensah Akoni, vous êtes l'auteur du classement annuel des 100 femmes les plus influentes du continent pour le magazine Forbes Afrique. Quelles sont là les évolutions notables depuis que vous faites ce classement ?
Alors le classement en est à sa 4e édition. Pour moi, les évolutions très claires, ce sont notamment le secteur bancaire, où là, je crois que les femmes cartonnent. Mais c'est incroyable le bond qui a été fait. Le nombre de femmes qui dirigent aujourd'hui des institutions bancaires est tel que moi, dans mon classement, si elles ne sont pas au moins directeur général ou au conseil d'administration, je ne les mets plus dans mon classement. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, j'en ai tellement que je chipote. Alors je dis, oh ben non, elle n'est que directrice générale adjointe, elle ne peut pas rentrer.
Vous en avez trop,
classement.
Quoi.
J'en ai trop.
Mais peut-être qu'un jour, il n'y aura plus besoin de faire un classement des 100 femmes les plus influentes du continent, non ?
Peut-être. Peut-être. En tout cas, ce que je dis, c'est
peut-être
que...
Peut-être qu'un jour, vous mélangerez les deux classements, non ?
Mais peut-être.
Hommes et femmes.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, derrière mes 100 femmes qui figurent dans le classement, j'en ai 300 qui poussent aux portes.
C'est des bons role models, en fait, pour la prochaine génération de femmes.
Exactement.
On peut donner des exemples un peu, là, dans la banque et puis dans d'autres secteurs aussi.
Alors, dans la banque, par exemple...
Tout n'est pas non plus fondé sur l'argent, sur le business, pas
seulement. Non, pas du tout. Je vais toucher à d'autres secteurs. Mais dans la banque, par exemple, dans mon classement, j'ai 3 femmes nigérianes qui sont présidentes de conseil d'administration de grandes banques nigérianes. Des 3 plus grandes banques au Nigeria. C'est assez impressionnant. Parce que là, on parle de big money, comme on dit. J'ai une femme francophone, malienne, Bintan Doy Touré, qui est directrice générale du groupe Aura Bank. Donc pas d'un pays, mais du groupe. C'est la première chez les francophones. Après, on peut parler aussi d'institutions financières, où j'ai des femmes qui dirigent donc des fonds d'investissement, etc. Donc dans le secteur financier, les Africaines sont à fond. Mais je vais prendre un autre secteur, qui est le secteur des sciences et technologies. Là où souvent on ne les attend pas.
Du moins dans les écoles et dans les universités.
Du moins dans les écoles et dans les universités. Et là, j'ai des scientifiques qui font des études tellement pointues. Il y en a une en Afrique du Sud qui fait des recherches pour pouvoir administrer des traitements pour les maladies telles que le cancer, mais des traitements ponctuels au laser. Et je pourrais en citer beaucoup d'autres.
Sur les parcours, sur les profils, sur les générations, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Alors, on peut dire que les générations de moins de 40 ans comme je dis, pour support.
C'est ça, et c'est celle que vous faites remonter dans le classement.
C'est celle que je fais remonter. Et c'est pour ça que dans le classement, le dernier, j'ai choisi de remercier un certain nombre de femmes qui pourraient être éternellement dans mon classement parce que, bon, leur réussite est établie. Mais je les ai remerciées, je les ai sorties du classement en expliquant qu'elles n'ont pas démérité, mais que j'ai besoin que ce classement vive, j'ai besoin qu'il soit dynamique et j'ai besoin de montrer que derrière, il y a toute une génération qui arrive et qui fait des choses.
Elles le comprennent, celles qui sortent du classement?
Oui.
Il faut laisser la place?
Oui, il faut.
Aux petites sœurs?
C'est important de laisser la place aux petites sœurs.
Ce sont aujourd'hui des produits essentiellement des femmes, des parcours qui ont quitté le continent pour aller faire des études supérieures, notamment dans les campus américains. Américains, anglo-saxons, etc. Parce qu'on peut vous reprocher, évidemment, votre classement, il est quand même pour un magazine anglo-saxon. Donc, il y a, les anglo-saxonnes pèsent très lourd dans votre classement. Mais où est-ce qu'on a aujourd'hui des parcours qui sont des parcours 100% africains ?
Oui, on a aussi des parcours qui sont 100% africains. On a des femmes qui sont nées en Afrique, grandies, éduquées en Afrique, qui osent, qui créent, qui réussissent. Tant en Afrique francophone qu'en Afrique anglophone. Mon classement n'est pas biaisé anglophone parce que Forbes est un magazine anglophone, mais mon classement a beaucoup d'anglophones parce qu'il donne un instantané de la réalité du continent. Les anglophones nous ont devancés depuis très longtemps. Les francophones, maintenant, courent très vite pour arriver à ce niveau. Les anglophones, ça fait longtemps qu'elles le font.
Justement, on va en parler. Est-ce qu'il y a un vrai fossé entre le continent anglophone et francophone concernant l'ascension des femmes dans les entreprises, dans les groupes et plus largement pour le pouvoir? On en discute juste après Agnès Obel. Tiens, je vous offre un peu une chanson d'une femme complète. Elle est danoise, elle écrit, elle compose, elle chante, elle produit, elle mixe. Ça vous plaît, ça, comme genre de parcours?
Tout à fait.
Oui. Familiar, c'est le titre, Agnès Obel. De voisins. Nous sommes toujours à Marrakech, discussion entre femmes sur la façon dont les femmes font carrière aujourd'hui dans les grands groupes, dans les grandes entreprises, comment évoluent ces carrières sur le continent africain. Nous en discutions avec vous, Nadia Mensah-Akoni, puisque vous êtes l'auteur du classement annuel des 100 femmes les plus influentes du continent, Forbes Afrique. Beaucoup de femmes anglophones, et pour cause, votre classement est édité par un éditeur anglophone. Et vous nous le disiez, les francophones courent après le train et sont en passe de le rattraper ou pas?
Oui, elles le rattrapent. Elles ne sont pas en passe. Elles ont rattrapé le train parce qu'elles ont compris qu'il faut partir à la conquête des jobs les plus importants. Elles ont compris que la formation est fondamentale. Qu'elles aillent se former dans les universités anglophones, américaines, anglaises, etc. Oui, il y en a beaucoup qui le font. Mais il y en a aussi qui simplement osent.
La plupart des femmes anglophones viennent de pays comme Nigeria. Et Nigeria, c'est le plus grand pays en population. Et là, j'ai grandi au Nigeria. Et comme tu es vraiment dans un groupe où il y a beaucoup de compétitions, et comme pour les femmes, par exemple, tu es en compétition avec peut-être la moitié du pays. Le pays, on a 170 millions. C'est-à-dire que tu vas vraiment aller loin pour se battre. Ouais. Et là, c'était cette attitude, à mon avis, qui est importante. C'est pas un problème que c'est pas le cas que les femmes francophones ne travaillent pas assez dur. Peut-être ils n'ont pas le besoin d'être le plus fort parce que les compétitions n'étaient pas assez graves comme le pays comme le Nigeria. Il y a ça, mais aussi c'est évident maintenant que partout le monde, anglais c'est vraiment la langue de business. Et pour aller loin, pour gagner plus de opportunités, il faut parler anglais. Et ça que je veux dire, même pour les femmes francophones qui vont travailler même dans les pays francophones, que le maîtrisage de langue...
La maîtrise de la langue anglaise.
Exact,
ouais.
La maîtrise de la langue anglaise, c'est important pour avoir une carrière un peu globale.
Non, c'est vrai, mais pour apporter une autre dimension à ce que vous disiez toutes les deux, c'est qu'on se rend compte hein, que ce sont dans les pays anglophones que le pourcentage de femmes est le plus élevé dans la population active. On regarde, il y a le Zimbabwe, je crois, il y a la Zambie, la Gambie. Donc cette culture d'être dans la force de travail est beaucoup plus ancrée, on va dire, dans les pays anglophones, avec une montée rapide de cette tendance-là dans les pays francophones, comme vous le disiez un peu plus tôt.
Alors j'aimerais qu'on parle de Western Union, Aïda Diarra. Ouais. Déjà vous, comment vous avez gravi les échelons? Qu'est-ce qui vous semble déterminant pour votre parcours et qui pourrait servir d'exemple et de conseil pour les petites sœurs qui nous écoutent?
Moi, je vais dire que mon parcours a été simplement la force d'une détermination individuelle. Hein. C'est-à-dire que le modèle que j'ai eu chez moi, ça a été celle d'une mère qui travaillait, qui a été fonctionnaire des Nations Unies, pour qui travailler était une évidence. Et donc, pour moi, si vous voulez, ça n'a pas été une question à se poser, on va dire. Ça allait de soi que j'allais avoir une carrière et que j'allais avoir une indépendance financière. Maintenant, au long du parcours, je dois dire que je n'avais pas forcément d'aspiration pour arriver à un certain niveau. Tout ce que je voulais, c'était démontrer une compétence, c'était participer au PNB des sociétés pour lesquelles je travaillais et surtout prendre du plaisir à ce que je faisais, sans pour autant faire attention à la question du genre au début. Je dois dire que cette question du genre est arrivée bien après, lorsqu'on arrive à certains échelons où on se rend compte que bon, il faut discuter un petit peu plus que les hommes pour affirmer sa présence.
Est-ce que le fait de faire carrière dans une entreprise américaine, ça vous a aidé?
Je pense que j'ai eu effectivement beaucoup de chance, on va dire, de travailler pour une entreprise qui avait pour mission déjà l'inclusion financière, qui avait beaucoup d'intérêt pour l'Afrique d'une manière générale et pour qui la diversité était importante, même s'il n'y avait pas à l'époque un agenda bien défini pour tout ce qui était diversité du genre. C'est récemment qu'il y a eu une volonté marquée de notre équipe exécutive de vraiment regarder ce que cela voulait dire que d'être femme au sein de Western Union et de voir quelles sont les mesures que l'on pouvait prendre pour justement accompagner les femmes qui étaient au bas de l'échelle ou en tout cas à des niveaux entry level, on va dire, et leur permettre de saisir des opportunités de carrière au sein de l'entreprise.
Néanmoins, vous savez toutes ce que c'est que le plafond de verre dans les carrières professionnelles. Il existe partout, y compris sur le continent africain, peut-être différemment aussi sur le continent africain. On va en discuter. Vous restez toutes les trois avec nous, Nadia Mensah, Connie Bimpenkonchou et Aïda Diarra. 7 milliards de voisins, on se retrouve juste après le flash dans un tout petit peu plus de 3 minutes. N'hésitez pas aussi à partager, les voisins et les voisines, vos réactions sur les réseaux sociaux. On se retrouve juste après le flash.
De voisins, c'est sur RFI. Sept milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI, tous les jours du lundi au vendredi.
De retour à Marrakech pour la deuxième partie de l'émission Women in Africa, pour prendre le temps de regarder dans le rétroviseur. Comment évoluent les carrières des femmes, cadres, dirigeantes, entrepreneuses? On les dit fonceuses, décomplexées, expérimentées, diplômées. Alors quels sont les freins qui subsistent malgré tout? Quelles sont aussi leurs stratégies pour briser le plafond de verre dans des économies globalisées qui bougent plus vite que les mentalités, souvent? Réussir seule ou avec l'assentiment de son clan, de sa famille? Aïda Diarra, on en discute avec vous, vous êtes vice-présidente Afrique de Western Union. Nadia Mensah-Akoni, auteure entre autres du classement annuel des 100 femmes les plus influentes du continent pour le magazine Forbes Afrique. Vous nous disiez à quel point les femmes, en première partie d'émission, ont littéralement envahi la finance en Afrique et pas à la faveur des quotas pour les conseils d'administration par exemple. Et Bimpen Konchou, vous êtes avocate nigériane basée à Londres, chef d'entreprise. Vous conseillez beaucoup de femmes qui ont fait fortune, mais qui parfois n'ont pas toujours la même clairvoyance pour leur fortune familiale, pour leur vie personnelle et leur épanouissement que pour leur carrière. C'est intéressant. Moi, les femmes que je rencontre sur le continent appellent rarement notre standard pour parler de leurs conditions. Et elles disent d'ailleurs en Afrique, mais nous, on n'a pas la double journée comme en Europe, boulot, enfant. On a une triple journée. Organiser la vie sociale de la famille, les grands événements familiaux dans une communauté, ça c'est la troisième journée, en dehors du boulot et des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je crois que le poids social est très fort. Il faut effectivement, les week-ends, il y a des mariages, il y a des décès, il y a des gens qu'il faut aller voir, il y a les parents. La femme est très occupée, même quand elle travaille, même quand elle est aidée, parce qu'il faut reconnaître que souvent en Afrique, une femme qui travaille à un certain niveau aura du personnel. Mais le personnel ne vous organise pas la partie sociale. Vous devez quand même penser à tout, tout le temps. Organiser.
Ils ne vont pas élever les enfants, en tout cas. Il faut la présence de la mère à la maison. Même après le travail, c'est elle qui gère les enfants, s'ils ont fini les devoirs.
Et socialement, en fait, elle n'a pas de break, on va dire. Elle n'a pas de répit, on va dire, parce qu'elle travaille et qu'elle a une carrière. Elle est attendue, comme vous le disiez tout à l'heure, pour tous les événements sociaux, l'organisation de la maison.
Mais ça veut dire, finalement, qu'est-ce que la société attend des femmes qui réussissent en Afrique ?
La superwoman.
C'est ça.
La superwoman qui doit tout planifier. Quand elle voyage, il faut qu'elle s'assure qu'à la maison, ils n'ont besoin de rien. Donc les courses sont faites, tout est organisé, les sorties des enfants, ce que doit faire la nounou, le chauffeur, le machin. C'est sans arrêt. Et pendant qu'on est à l'étranger, donc en voyage, on continue de penser à ce qui se passe à la maison aussi.
Aïda Diarra, comment les entreprises prennent en compte cette spécificité de la triple journée sur le continent africain, avec un poids social, des attentes sociales très fortes aussi, pour que la femme conserve sa place, toute sa place dans le clan, dans la communauté sociale?
De ce que l'on a vu et des recherches qui ont été faites, il n'y a pas de mesures spécifiques prises par les entreprises africaines sur le continent en ce qui concerne la question du genre et des responsabilités des femmes. On a interviewé un certain nombre de PME et de grandes entreprises et seulement 3 dirigeants de sociétés ont fait allusion à la question du genre et au rôle de la femme et à tout ce que l'on appelle, je vais utiliser un anglicisme, work-life balance pour les femmes.
C'est-à-dire donc, l'équilibre, finalement, voilà, vie professionnelle, vie privée.
Donc c'est vraiment à la femme de trouver son équilibre, de trouver sa place dans cet écosystème.
Alors où se situe, par exemple dans votre groupe, puisque vous êtes la Madame Afrique de Western Union, où se situe le plafond de verre pour les femmes? Est-ce qu'il y a une forme d'autocensure?
Alors, on a réalisé un certain nombre de choses. C'est que Western Union ressemble beaucoup à beaucoup de sociétés globales, dans le sens où, lorsqu'on regarde au niveau entry-level, il y a un bon équilibre de femmes et hommes. Et lorsqu'on arrive au niveau, on va dire, exécutif, vice-président, on voit une imbalance, on va dire, un déséquilibre. Alors, lorsqu'on a interviewé nos collaboratrices, il y a plusieurs choses qui sont ressorties pour ces raisons-là. La première, c'est la question à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure, qui est l'équilibre de la vie familiale et la vie professionnelle. Beaucoup disent, je dois continuer d'élever mes enfants, ma famille, je dois continuer d'avoir un rôle et je ne veux pas prendre plus de responsabilités qui m'amèneraient à voyager beaucoup, à avoir des horaires de travail assez longs. La deuxième, c'est que beaucoup de femmes s'auto-censurent elles-mêmes. Très curieusement. Alors, pour autant qu'un homme va voir une opportunité et va se dire, bon, ben, je n'y connais peut-être pas tout, mais c'est sûr que je vais y arriver. La femme aura tendance à se remettre en question en disant, il me manque cette compétence ou il faut que je me perfectionne dans ceci ou dans cela avant de pouvoir prétendre accéder à ce rôle-là. Et c'est pour ça que le principe du rôle modèle est important, le principe d'accompagnement des femmes en entreprise est important pour leur permettre d'oser, justement.
Oui. Je dirais que c'est même lié à l'éducation des filles. C'est-à-dire qu'on nous apprend, en tant que filles, qu'il faut être parfaite. Il faut bien travailler, il faut que les cahiers soient propres, il faut bien apprendre ses leçons, et si on ne sait pas, eh bien, on n'ose pas. On ne se permet pas de dire des choses qu'on ne sait pas. Le garçon, il peut être turbulent, il peut être brouillon, c'est pas grave. C'est un garçon. Et donc, avec le temps, les filles deviennent des femmes qui pensent que tout doit être parfait.
C'est comme ça que vous avez grandi au Nigeria, Bimpe?
Ah oui,
que vous avez été élevée.
C'est ça, exactement. Mais en fait, au Nigeria, encore, comme j'avais dit, il faut se battre, il faut vraiment être devant. C'est ça le message que tous les parents, mais moi aussi, ma mère a travaillé tout le temps, elle était médecin. Ma grand-mère, elle travaillait aussi, elle était commerçante, elle vendait des tissus au marché.
Des tissus,
et même elle nous avait dit, comme grand-mère, qu'il faut que les femmes travaillent, il faut qu'on gagne aussi, parce qu'il faut faire tout. Mais il faut faire tout parfaitement.
Dans un grand groupe, Western Union ou un autre, plus on monte, plus on arrive à des postes qui sont politiques. Et pas seulement des postes opérationnels, où on regarde seulement vos résultats financiers. Est-ce que, en dehors de cette auto-censure pour les raisons que vous avez données, Aïda Diarra, est-ce que les femmes ont peur d'un poste politique dans un grand groupe ?
On se rend compte, hein, encore une fois, ce n'est pas l'exclusivité de Western Union, que lorsque l'on interroge ces femmes-là, beaucoup disent que la dimension politique du rôle est quelque chose qui ne les intéresse pas forcément. Elles trouvent beaucoup de plaisir à, comme j'ai dit, à délivrer des résultats, à s'épanouir dans la performance, mais tout ce qui va au-delà et qui tourne autour du...
Mais pourquoi ? Parce qu'elles ont le sentiment que derrière, les dés sont pipés, que c'est moins transparent, qu'il va y avoir des jeux de pouvoir, donc plus de magouilles.
C'est une combinaison de tout ce que vous venez de dire, et cela ne correspond pas à la manière dont elles se projettent.
Et à l'idée
qu'elles
se font du succès aussi.
Absolument.
Et de la réussite.
Moi, je trouve que ça, c'est vrai. Et c'est pour cette raison que maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent au sommet, mais qui décident d'être entrepreneurs. Qui décident que moi, je ne veux plus jouer le jeu politique. Mm-hmm. J'ai beaucoup de choses
le
à donner.
Le jeu politique dans les entreprises.
Dans les entreprises,
hein,
oui. J'ai beaucoup de choses à donner. Ils ne m'apprécient pas. Et là, je peux même aller former mon cabinet. Et maintenant, en Afrique, moi, j'ai beaucoup de clients qui font ça. Et quand elles partent comme ça, elles gagnent. Elles gagnent plus. Elles gagnent beaucoup. Parce que là, elles peuvent gérer le temps qu'elles passent au bureau.
Oui, absolument.
Tout à fait d'accord. C'est vraiment une tendance.
Femmes et entrepreneuses.
Femmes et entrepreneuses.
Pour contourner les jeux de pouvoir dans les grandes entreprises. Ça veut dire que vous vous privez forcément de talent dans ces cas-là pour vous, pour les grands groupes.
Il y a une opportunité ratée, comme on dit. Hein. C'est pour ça que de plus en plus de grands groupes se mobilisent pour adresser la question du genre et de la promotion des femmes à des niveaux exécutifs. Parce qu'encore une fois, la diversité, au bout du compte, ramène beaucoup plus d'argent à la société.
Bimpe Nkonchu, vous m'avez dit quand on a préparé cette émission, c'est étonnant des femmes qui réussissent très très bien professionnellement, qui font du business, qui gagnent beaucoup d'argent dans leur vie personnelle. Ça devient compliqué de gérer son argent. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
C'est vrai, ça devient compliqué parce que là, en Afrique, on était enlevé comme femme, que c'est le mari qui prend toutes les décisions. Et c'est ça qui devient compliqué.
Compliqué.
C'est là, même
les clientes que vous avez, elles ont leur propre compte en banque.
Ils ont les propres comptes, mais ça, c'est pour les salaires, les choses, les petites choses. Le salaire, l'argent qu'ils dépensent toute la journée. Mais pour l'achat de mobilier, pour les grands investissements, même si elles gagnent beaucoup, normalement, elles mettent l'argent sur la table. Peut-être le mari a plus d'argent qu'elle, ou bien même la moitié, elle partage. Mais c'est lui, souvent, qui peut prendre les décisions. Même les banques traitent la femme comme c'est pas elle le client.
Mais vous êtes en train de nous dire que des femmes patronnes qui ont monté leur entreprise, qui gagnent, leur entreprise gagne de l'argent, une fois rentrées chez elles, elles ne sont pas tout à fait libres de disposer de leur patrimoine.
Ça, c'est la réalité. Parce qu'il y a, soit la culture, soit les religions. Au Nigeria, on a les musulmans, on a les chrétiens. Chez les musulmans, par exemple, oui, c'est vrai, la loi charia est très forte. Et là, dans la loi charia, par exemple, c'est l'homme qui décide. Et même les femmes, souvent, ne peuvent pas même hériter beaucoup d'argent. Ça, c'est vraiment le monde des hommes. Mmh. Et si tu es même une femme qui a gagné beaucoup, il faut que tu sois diplomatique.
Ça s'appelle un plafond de verre familial, finalement.
Finalement, oui.
Oui, c'est vrai aussi. C'est ça.
Intermède musical, on vient de vous offrir I Play de Cora. Vous le savez, la Cora, c'est pas tout à fait l'instrument accessible aux femmes, a priori. C'est un message fort des Amazones d'Afrique, collectif de super chanteuses de toute l'Afrique. Vous connaissez ?
Oui.
Ouais. Nadia Metsahakoni, vous allez animer, là, lors de ce forum de femmes africaines ici à Marrakech, de ce Women in Africa, un atelier sur la prise de parole en public pour les femmes. Pourquoi donc ?
La prise de parole en public est un besoin. C'est un besoin pour les femmes et pour les hommes. Et ça commence par la confiance en soi. Vous savez, Emmanuel, la prise de parole en public, c'est une des trois choses qui fait le plus peur au monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'en dorment pas pendant des jours, qui ont des maux de ventre, qui ont des choses vraiment intéressantes à dire, mais qui n'arrivent pas à les sortir. Et donc, pour nous, la prise de parole, c'est devenu quelque chose que nous poussons énormément, cette formation à la prise de parole, parce que c'est une façon de donner une voix à beaucoup de gens qui n'osent pas parler aujourd'hui, mais qui sont des gens très intelligents, très compétents.
Des hommes et des femmes.
Des hommes et des femmes, alors, ce n'est pas juste pour les femmes.
Pourquoi pour les femmes, là ?
Pour donner la confiance en soi et les techniques.
Et je pense qu'elles doivent travailler deux fois plus pour se faire entendre et pour être visibles. Hein.
Vraiment, c'est une réalité.
C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont une présentation à faire ou qu'elles sont sur un podium, un panel, il y en a beaucoup qui perdent un peu les moyens. Elles sont intimidées. Surtout quand on se retrouve, comme moi, ça m'arrive souvent, sur des panels où on est la seule. Où il n'y a que des hommes qui parlent fort, qui ont des choses à dire, et vous êtes seul, et vous n'osez pas.
Mais attendez, à un certain niveau de responsabilité, est-ce que c'est encore un problème, là ? Est-ce que là, vous n'en faites pas encore un truc marketing ?
C'est pas évident pour tout le monde. Hein. C'est pas du tout
je
évident.
Je pense qu'au-delà de la prise de parole en public, ouais. même dans les réunions, hein, la femme aura tendance à attendre qu'on lui donne la parole et qu'elle ait un forum pour pouvoir s'exprimer. Et si on n'a pas cette assertiveness, cette présence pour pouvoir articuler un point de vue et se faire entendre, c'est une opportunité ratée.
Mais quand les femmes sont dirigeantes, quand elles sont entrepreneuses, par exemple, est-ce que leurs problèmes ne sont pas des problèmes beaucoup plus immédiats, par exemple, comment se faire payer par des clients hommes, comment se débrouiller avec un contrôle fiscal? Est-ce que c'est pas là qu'elles sont plus vulnérables en tant que femmes plutôt que la prise de parole?
Mais Emmanuel, la prise de parole, c'est tout. C'est pas juste quand on est devant son micro. La prise de parole, c'est quand on va voir le client et qu'en face à face, on doit avoir cette confiance en soi pour exiger quelque chose de son client. Ça aussi, c'est de la prise de parole.
Vous les formez, par exemple, à des choses comme ça ?
Oui.
Pour être payé par son client ?
Bah oui, parce que en fait, ce qu'on leur donne, ce sont des outils pour dominer leur stress.
J'ai besoin d'un chèque tout de suite, là.
Oui, c'est dominer son stress. C'est pouvoir, à tout moment, parler... que ça soit à une personne ou à 1000 personnes, en dominant complètement
son stress.
Vous
pourriez là donner des conseils, parce que je peux vous dire que là, il y a des auditrices qui nous écoutent, hein, qui sont entrepreneuses, qui ont des problèmes, qui se font payer à 3 mois, à 6 mois. C'est un vrai souci, je dirais, d'autant plus en tant que femme.
Mais le conseil principal, c'est respirer. Prenez vraiment le temps d'écouter de la musique. Oui, de la musique. Pour vous mettre
pas
dans
pendant
un
la
état
négociation
d'esprit,
pas financière. Pendant la négociation.
Non, c'est avant. On arrive préparé. C'est pas sur place qu'on se prépare. On arrive préparé dans sa voiture. On met une musique qu'on aime bien parce que ça nous transporte ailleurs. On est plus punchy. On a plus de courage, tout simplement, en écoutant de la musique. Ensuite, on respire. On ne se précipite pas pour parler. On laisse parler l'autre d'abord. C'est celui qui parle en dernier qui gagne.
Non, c'est vrai.
Vous connaissez ce genre de difficultés parfois, Bimpe?
Ah mais oui, en fait, comme avocate, devant le tribunal par exemple, pour donner le message, pour même faire l'argument, c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est pas évident. Parce que même tu peux perdre le client, tu peux perdre l'argument. Si tu ne respires pas, et ça, c'est un bon conseil, Nadia, merci.
Il faut aussi visualiser, il faut se préparer. Hein. Ouais. Quand on va à un rendez-vous, il faut visualiser le résultat. Il ne faut pas arriver en se disant peut-être que j'aurai mon chèque et peut-être que je ne l'aurai pas. On y va en se disant je veux mon chèque et j'aurai mon chèque.
Dans notre émission d'hier, la journaliste Marie-Jeanne Serbin-Thomas évoquait une réalité taboue, le harcèlement sexuel, y compris au plus haut niveau des carrières des femmes. Est-ce que c'est un sujet que vous évoquez parfois entre vous, Bimpe?
Oui, parce que en fait, comme femme, toujours, soit tu te trouves devant un client, un homme, qui vraiment qui veut essayer tout le temps, même soit devant le client, soit ton patron, le boss, et aussi ça peut arriver. Mais à mon avis, c'est l'attitude de femme qui compte. Et si tu te portes avec beaucoup de respect, et si tu présentes
une façon de non recevoir,
c'est pas une façon de les culpabiliser, voilà. De dire ça, c'est une question d'attitude. Ou est-ce qu'on peut transformer ça en conseil?
Moi, je crois qu'on peut le transformer en conseil. C'est pas de les culpabiliser, mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des façons de s'habiller quand on va travailler. Et ça, moi, depuis des années, je constate que parfois, malheureusement, nos sœurs ne sont pas habillées pour aller travailler. Quand on est trop décolleté, le message qu'on passe, ce n'est pas qu'on vient travailler. Quand on a une jupe qui est trop fendue, en face, on ne peut pas empêcher l'autre d'avoir un commentaire grivois ou voilà, d'espérer que peut-être il a une chance. Il faut qu'on s'habille pour aller travailler. Alors, ça peut paraître très strict.
Il y a aussi des femmes qui sont couvertes des pieds à la tête et qui disent qu'elles sont harcelées sexuellement ou qu'elles sont victimes d'un chantage dans le business.
C'est vrai. Il y a en dehors de.
Notamment
de
pour
façon.
Se faire payer par un client, par exemple.
C'est vrai.
Pour avoir du recouvrement financier.
C'est vrai. Mais ça
pour obtenir un prêt, par exemple, dans une banque, ça se voit aussi.
Oui.
Je vous sens mal à l'aise sur le sujet, Aïdia.
C'est pas que je suis mal à l'aise, c'est que j'essayais de connecter un petit peu tous les points de vue sur le sujet. Pour moi, c'est pas tant la manière dont on s'habille, parce que les hommes, de toutes les façons, vont, indépendamment de ce que l'on porte, vont peut-être tenter leur chance. Mais je rejoins votre point de vue qui consistait à dire que tout dépend de comment est-ce que l'on se présente. Hein. Il y a des cas de figure où rien que le regard est une indication, c'est même pas une, enfin que l'homme ne doit même pas se permettre d'avoir un certain, de vous tenir un certain type de propos.
Mais aussi, les autres entreprises, les grandes entreprises aussi doivent avoir des règles.
Absolument.
Les règles, ils doivent être respectées. Absolument. Par tout le monde.
Si tant est qu'on puisse se plaindre.
Oui,
et dénoncer.
Oui, c'est ça, exactement. Et si ça marche, c'est
si le sujet reste tabou, on a beau avoir des règles en entreprise.
C'est vrai. Je me dis, la plus grande difficulté, je pense, des femmes, c'est ce côté être transparent. Pour moi, c'est plus un problème de visibilité, de présence, d'être entendu pour les bonnes raisons qu'un problème de harcèlement, pas pour dire que ça n'existe pas.
Est-ce que les hommes de la nouvelle génération...
Je vais lancer aussi un pavé dans la mare. Le harcèlement, il est à double sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi des femmes qui harcèlent. Et moi, j'ai entendu des hommes se plaindre en parlant de femmes collaboratrices qui les harcèlent, qui sont toujours un petit peu à flirter, etc. Et ça les met mal à l'aise. Donc je crois qu'il faut... Il y a des sujets, quand on les aborde, il faut regarder dans les deux sens. Et donc, le sujet notamment du harcèlement, aujourd'hui, en tout cas sur l'Afrique, on ne peut plus parler simplement des femmes qui se font harceler sans dire aussi que le contraire existe.
À quoi doivent renoncer les femmes pour faire carrière ? Ou en tout cas, à quoi doivent-elles se préparer pour gravir les échelons, les uns après les autres, jusqu'au sommet ? Ça sera le mot de la fin avec vos conseils les plus précieux qu'on attend, hein, avec impatience. Bimpen Konchou ?
À mon avis, non, il ne faut pas forcément, c'est nécessaire de renoncer à quelque chose pour gagner. À mon avis, c'est juste avoir l'équilibre dans la vie. Parce que là, il y a des femmes qui veulent se marier, qui veulent avoir les enfants, qui veulent travailler, qui veulent voyager. À mon avis, on peut faire tout. Si le mariage est beaucoup plus important, peut-être il faut trouver un travail qui est plus près de la maison, même peut-être travailler de la maison.
Moi, je pense que ça, c'est un point qui est très important. Le soutien de la famille, d'une manière générale, que ce soit le conjoint ou autre.
Pour participer à la carrière des femmes.
Mais pour participer, et pour soutenir, pour contribuer aussi à l'activité familiale. Lorsque la femme part en déplacement pour des raisons professionnelles, il faut bien qu'elle ait le support system, le soutien à la maison.
Vous l'avez dit tout à l'heure, Aïda Diarra, il faut travailler plus que les hommes. À quoi doivent se préparer les femmes qui affichent leurs ambitions ?
Je pense qu'elles doivent se préparer à la résilience. Je pense que c'est surtout ça. Il faut qu'elles aient une détermination qui soit sans faille. Je pense que les obstacles seront là, de toutes les façons.
Qu'est-ce que vous entendez par résilience, là, dans le cas des femmes et des carrières des femmes ?
Je pense que les femmes vont être confrontées à toutes sortes de stéréotypes, d'obstacles liés au manque de compréhension, liés à leurs ambitions, à leur volonté de se développer. Le conseil que moi je donne aux jeunes filles quand je les rencontre, parce que j'ai le privilège de faire un petit peu de mentoring, c'est de leur dire de ne pas laisser les autres déterminer ce qu'elles sont et ce qu'elles veulent.
Exactement.
Et que s'il y a une difficulté, c'est peut-être la problématique de l'autre, mais pas leur problématique, qu'elles doivent continuer de se battre et d'avancer.
Moi, je crois que chaque cas est unique. Chaque femme est unique. Et effectivement, j'abonde aussi bien dans le sens de Aïda que de Bimpe. C'est-à-dire, chacune doit savoir quelle est sa priorité dans la vie. Et c'est à partir de cette priorité qu'elle doit construire. Mais aussi, le conseil, c'est la communication. Il faut communiquer, il faut dire les choses. Si on n'explique pas à son conjoint ce qu'on a envie de faire, comment est-ce qu'il peut le savoir ? Il ne saura jamais. Donc, ce sont les femmes qui doivent dire, voilà ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie. J'ai envie de travailler, ce job, je le veux. Comment est-ce qu'ensemble, on peut trouver une solution pour que je puisse, moi, réussir ?
Je peux peut-être ajouter avec une petite histoire. Je suis nigériane. J'étais née au Nigeria, j'ai fait mes études en Angleterre. Et je n'ai jamais croyé que je vais finir encore en Angleterre, se marier avec un Camerounais. J'ai été obligée d'apprendre français. Mais en fait, quand j'ai décidé de partir de Nigeria parce que mon mari est du Cameroun et il travaillait à Londres, j'étais obligée de réfléchi sur mon carrière. Parce que là, au Nigeria, j'étais avocat, j'avais un très très bon job, mais j'étais obligée de quitter parce qu'il ne va pas rester au Nigeria avec moi. Et quand je suis arrivée à Londres, j'ai décidé de faire les qualifications comme avocat anglais. Et c'est là que Nadia avait dit, on a communiqué, je l'ai dit, je veux rester avocat. Mais ici, je vais faire des examens. Et là encore, j'ai trouvé que c'est difficile d'entrer dans le cadre d'avocat anglais, parce que là, j'avais déjà
repassé les diplômes.
Et là, j'ai décidé de former mon propre cabinet. Et j'avais le soutien de mon mari. Et j'ai formé mon cabinet et j'ai travaillé comme avocat africain basé à Londres pour les clients anglais qui veulent faire des affaires au Nigeria, en Afrique. Et c'est là que tu peux transformer ton histoire,
une difficulté en opportunité.
Et c'est exactement ça. Ce n'est pas l'essai de renoncer à quelque chose. En fait, j'ai gagné. C'est ça que je voulais dire comme exemple.
Merci à vous toutes, Bimpe Nkonchu, avocate nigériane, chef d'entreprise, Aïda Diarra, vice-présidente Afrique de Western Union, et merci à vous, Nadia Mensah Akoni, auteure du classement annuel des 100 femmes les plus influentes du continent pour le magazine Forbes Afrique, et puis aussi co-dirigeante du cabinet Acosphère. Merci à toutes les trois d'être passées
chez
7 milliards de voisins. Et merci à toute l'équipe, Jérémy Bessé à la réalisation, Cécile Lavolo à la préparation. Demain, dernière émission à Marrakech, portrait d'une ex-banquière, Evelyne Tal. Elle a terminé son parcours sans faute, numéro 2 d'EcoBank. Discrète dans les médias, elle a gravi tous les échelons d'un monde sans femmes il y a encore peu de temps. À 59 ans, elle se prépare à servir les générations suivantes. Elle nous en parlera demain, 10h10, temps universel. Présente